Fidèle au poste, Xavier Nataf, Radio Judaïka.
Bonjour et bienvenue dans Fidèle au poste, votre émission de début d'après-midi sur Radio Judaïka. Dans quelques instants, Julien, libraire de bande dessinée, viendra nous parler de son coup de cœur du moment. D'où vient l'hymne de la résistance, le chant des partisans? Nous en saurons plus avec les protagonistes. Zelda et sa musique originale a quelques liens avec la musique classique. Nous en parlerons plus en détail. Profitez du moment, laissez-vous surprendre.
Tanto buscarse sin encontrarse, me encierran los muros de todas partes. Barcelona, te estás equivocando, no puedes seguir inventando que el mundo sea otra cosa y volar como mariposa. Barcelona, haz un calor que me deja fría por dentro. Con este vicio de vivir mintiendo, qué bonito sería tu mar si supiera yo nadar. Barcelona, mi mente está llena de cara de gente extranjera, conocida, desconocida. He vuelto a ser transparente, no existo más. Barcelona, siendo esposa de tus ruidos, tu laberinto extrovertido. No he encontrado la razón porque me duele el corazón. Porque es tan fuerte que solo podré vivirte en la distancia y escribirte una canción. Te quiero, Barcelona.
Barcelona, interprété par Guidi y los Tellarini, musique qu'on a entendue du côté du film de Woody Allen, Vicky Cristina Barcelona.
Le choix du libraire.
Bonjour Julien.
Bonjour Xavier.
Vous êtes responsable de la librairie de bande dessinée Arles BD à Arles, bien sûr, et on voudrait bien savoir quel est votre coup de cœur de la semaine.
Eh bien, le coup de cœur de la semaine, c'est un roman graphique dont le titre est « Idéal », qui est fait par deux jeunes auteurs, c'est leur première bande dessinée. C'est Baptiste Chobard et Thomas Heyman, et l'éditeur c'est Serbacane, qui nous propose toujours des ouvrages très bien faits, avec un dos toilé, une super couverture. Donc voilà, c'est un album réussi. Et Idéal, c'est, ça se passe dans un futur proche. Les androïdes et les nouvelles technologies ont envahi le quotidien. Sauf sur l'île de Kino, au Japon. C'est une île qui souhaite préserver, voire figer, un monde disparu du XXe siècle. Et ça raconte l'histoire d'Hélène, qui est une pianiste de renom international. Elle vit trop tranquillement avec son mari Edo. Et malheureusement, suite à un accident de voiture, elle va remettre en question son travail de pianiste. Et elle va s'interroger aussi sur la vie de son couple. Et l'intrigue va tourner autour de ce, de malgré cet interdit sur l'île de Kino, Hélène, elle va faire une proposition à son mari Edo pour remettre du piment dans leur vie. Voilà. Tintin. J'en dis pas plus parce que sinon je vais spoiler, bien sûr. Donc c'est vraiment une excellente BD, première BD de Baptiste Chaubard, qui est scénariste et à la fois libraire sur Paris. Et Thomas Eman, un beau travail sur le dessin.
Un dessin assez japonisant même.
Tout à fait, ouais.
Il y a un beau... Pour des auteurs évidemment en français.
Ouais, ils ont bien travaillé le dessin japonisant, comme tu dis. Et il y a un gros travail sur les paysages, sur l'architecture, sur les perspectives. Et c'est très soigné, ce qui donne une ambiance plutôt posée et zen. À l'histoire. Et au-delà des questionnements intimistes sur le couple, sur le quotidien, il y a vraiment une réflexion sur la modernité et la tradition. Voilà.
Il y a une belle mise en couleur également.
Oui, avec des couleurs chaudes, douces, et aussi pas mal de travail avec... avec des formes arrondies, des ronds dans les décors, sur les sols, sur les murs. Et voilà, ça donne vraiment une atmosphère particulière à la bande dessinée.
Comment s'appelle-t-elle ?
Idéal, chez Serbacane. Elle est au prix de 28 euros. Et les auteurs, c'est Baptiste Chaubard et Thomas Eman.
Merci Julien de nous recevoir dans ta librairie Arles BD, régulièrement pour nous donner justement le coup de cœur de la semaine.
Et avec plaisir. Listen baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter. Don't worry, baby. Just call my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. Oh, baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Remember the day I set you free? I told you you could always count on me.
Marvin Gaye et Tammy Terrell.
Fidèle au poste, Xavier Nataf, Radio Judaïka.
La planète podcast est passionnante. Selon le sujet qui vous intéresse, vous trouverez toujours quelque chose à vous mettre sous la dent. Nous nous sommes intéressés aujourd'hui au chant des partisans, l'hymne de la résistance. Comment ce chant est né, qui en sont les auteurs, c'est le dossier d'aujourd'hui.
Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux?
Entonné par des manifestants, des chanteurs de variété ou bien par le chœur de l'armée française, le chant des partisans appartient à tout le monde. Mais saviez-vous qu'il s'agit de l'hymne de la résistance ? La musique est composée en 1941, pendant la Seconde Guerre mondiale. sa compositrice Anna Marly. Née en Russie en 1917, pendant la Révolution d'Octobre, Anna Marly s'exile en France avec sa famille. C'est là qu'elle apprend la musique. 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate. La jeune femme s'engage à Londres comme cantinière des forces françaises libres, où elle servira un certain Charles de Gaulle.
France, at first crushed, while acting...
Les bombes volantes, les bombes incendiaires, le quartier général de Gaulle, qui était en somme notre quartier général, les soldats qui venaient, qui partaient, les aviateurs, c'était une atmosphère tellement spéciale, tellement stimulante, qu'on ne pouvait pas faire autrement que ou chanter, ou crier, ou marcher, ou se sacrifier.
Chanter, Anna Marly va le faire. Elle interprète ses ritournelles d'avant-guerre dans des théâtres dédiés aux armées. En 1941, la bataille de Smolensk éclate. Les Allemands tentent de prendre Moscou. C'est en lisant un article sur le rôle des partisans soviétiques durant la bataille qu'Anna Marly compose un air. Quelques notes entraînantes inspirées d'une mélodie populaire slave. Le chant des partisans est né. Mais il porte à ce moment-là un autre titre.
J'ai vu cette salle énorme, il y avait beaucoup de marins. Je me dis, bien, je vais essayer. Je chante ce que j'appelais immédiatement la marche des partisans. Et alors il y a eu un silence immédiat qui m'a un peu inquiété. Je me dis, c'est pas possible, ça doit être un four, ça ne porte pas la chanson. Et puis alors tout à coup, c'était un tollé d'applaudissements. Et alors j'ai compris que la chanson avait quelque chose de magique.
Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur les plaines ?
Un homme va bouleverser le destin de ce morceau. Emmanuel Dastier de la Vigerie, un journaliste et résistant français. De passage à Londres en 1942, il entend Anna Marly l'interpréter. Séduit par la mélodie, il fait une proposition inattendue. L'utiliser comme indicatif musical pour une émission de radio de la BBC consacrée à la France libre et animée par le résistant André Gillois.
Honneur et patrie.
J'ai eu à choisir entre les deux disques que nous avions enregistrés. Je les ai écoutés l'un et l'autre et puis j'ai choisi l'un d'eux sans une émotion extraordinaire puisque je ne me doutais pas que ça allait devenir un chant national et que c'était pour moi le simple indicatif d'une émission. Et du reste, il n'y avait pas encore de paroles sur cette musique.
Pourquoi la mélodie d'Anna Marly plutôt qu'une autre ? La raison est musicale, mais pas seulement.
J'ai sifflé le refrain du chant des partisans et on a découvert que c'était justement l'air qui traversait le brouillage ennemi. Alors mon sifflet est devenu presque à ce moment-là indispensable.
Emmanuel Dastier de la Vigerie ne s'arrête pas là. Convaincu que c'est avec les chansons que l'on gagne une guerre, il propose aux auteurs et résistants Kessel et Druon d'en écrire les paroles.
Il nous a demandé, à Maurice et à moi, si nous pouvions composer un chant qui serait un chant des maquis, un chant de révolte propre à animer la France de, encore plus du désir de libération.
Pour les paroles, l'idée est simple. La chanson doit donner l'impression d'avoir été écrite en France au cœur d'un maquis. Un narrateur résistant appelle les Français à lutter contre l'oppresseur avec un vocabulaire simple et universel. À l'origine, le corbeau qui ouvre la chanson devait être un hibou, avant que Kessel et Druon estiment que les nazis ressemblaient davantage au corbeau. Une fois le texte écrit, Emmanuel Dastier emmène la chanson avec lui en France, où il est publié dans les cahiers de la Libération. Il faut attendre 1945 pour que la chanson devienne véritablement populaire. Maurice Druon dira du chant des partisans qu'il appartient à tous ceux qui l'ont chanté. D'un air sifflé pour franchir le brouillage ennemi, le chant des partisans est devenu une chanson nationale.
Je ne pensais pas que ça allait aller si loin, vraiment, lorsque je la sifflais à la BBC de Londres. Je sentais beaucoup de force en le transmettant, mais naturellement, on ne pensait pas à l'avenir à cette époque-là. D'ailleurs, on se croyait très éphémère. On ne pensait même pas arriver à la fin de la guerre.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender.
Anna Marly a composé une autre chanson à Londres pendant la guerre, La complainte du partisan. Un titre qu'elle surnommait la cousine du chant des partisans et dont le chanteur canadien Leonard Cohen s'est inspiré avec son titre « The Partisan ». Cette même chanson est reprise par la chanteuse américaine Joan Baez, qui fait l'amalgame avec le chant des partisans.
La chanson est française de naissance, c'est le chant des partisans. Maintenant, elle appartient au monde entier. An old woman gave us shelter, kept us hidden in a garret. And then the soldiers came.
Sur Terre, un homme pouvait être blanc ou noir, jaune ou rouge, et puis c'est tout. Mais une autre race est en train d'apparaître.
C'est les azous,
c'est les azous.
Un vocal qui monte jusqu'aux amygdales,
avec un veston qui descend jusqu'aux genoux,
les cheveux coupés jusqu'à l'épine dorsale. Voilà les azous, voilà les azous. Il y a des azous dans mon quartier.
Moi je le suis déjà à moitié.
À votre tour, âme de séjour,
vous serez tous azous comme nous, car le azou c'est contagieux.
Ça commence par un tremblement qui vous prend soudain brusquement,
et puis on pousse des hurlements.
Ah, des yeux, des doigts.
Si vous rencontrez un jour sur votre passage
un particulier coiffé d'un fromage ou
tenant dans ses doigts un poisson dans une cage,
c'est un zazou, c'est un zazou. Si votre officier vous dit j'ai de gruyère,
mais malheureusement il ne reste que les trous,
ne supposez pas qu'il fût de la cafetière.
Il est zazou, il y a des zazous dans mon quartier.
Moi je suis déjà à moitié. Un de ces jours ça vous prendra.
À son futur genre d'avant-hier, ma concierge
disait, voyez-vous, ma fille est un bijou.
Elle est encore mieux que si elle était vierge.
Elle est azou, elle est azou. Et en prenant le train, j'ai vu le chef de car
qui m'a dit, mon cher, je suis plus cocu du tout.
Je suis quelque chose de beaucoup plus rare.
Je suis azou, je suis azou.
Et des azous dans mon quartier.
Moi, je suis déjà à moitié.
Mais ce jour, ça vous prendra.
Ouais, des yeux, des yeux.
À la société, devant payer sa dette.
Devant la guillotine, j'agène, il dit, je m'en fous.
Il y a déjà longtemps que j'ai perdu la tête.
Je suis azou, je suis azou.
Avec une mondaine de la place Pigalle,
mon ami Léon a fait les 400 coups.
Ça lui réussit qu'à pour ses 25 balles.
Il est azou, il est azou. Il y a des azous dans mon quartier.
Moi je suis déjà à moitié.
Et à mon tour un de ces jours,
on finira par m'amener dans un asile d'aliénés. Entre azous on s'y retrouvera.
Car c'est faux ça qu'on rigolera.
Quand sous les douches on chantera comme ça.
Les azous, chanson reprise dans cette version par Brigitte Fontaine et M. Quels sont les liens entre les musiques des jeux vidéo et la musique classique, et en particulier celle de Zelda? Eh bien, restez à l'écoute, la réponse va suivre.
Un jour, un podcast.
C'est un des thèmes les plus célèbres de la musique de jeux vidéo, The Legend of Zelda, composé par Koji Kondo. Eh bien, cette mélodie incontournable a tout simplement failli ne jamais exister. Dans un entretien, Koji Kondo a avoué qu'il avait d'abord pensé à une reprise du Boléro de Maurice Ravel. Le thème principal de The Legend of Zelda aurait donc pu ressembler à ça. Finalement, Koji Kondo s'est rendu compte que la musique de Ravel n'était pas encore tombée dans le domaine public. Marche arrière toute, il a donc composé une œuvre originale. Enfin, je dis originale, Koji Kondo n'a jamais caché d'avoir été inspiré par plusieurs styles musicaux pour composer la musique de Zelda. Les influences vont de Deep Purple à la country ou à la musique de Beethoven. Voici donc un passage, une musique de Zelda et un extrait du premier mouvement de la sonate pathétique de Beethoven, mise en miroir.
Thank you.
Mais ce n'est pas tout. Dans Zelda Ocarina of Time, sorti en 1998, on retrouve aussi ce très beau thème de la fontaine des fées. Écoutez plutôt cette belle marche de septième. On retrouve cette même marche descendante, ces mêmes retards de septième dans le second mouvement du concerto pour deux pianos de Poulenc. Écoutez, on dirait du copier-coller. Retour du thème avec commentaire du piano. Koji Kondo n'a jamais expliqué s'il s'était directement inspiré de Poulenc. Je ne sais même pas s'il connaissait cette œuvre au moment de composer la musique de Zelda Ocarina of Time. Mais il est clair que les deux passages se ressemblent beaucoup. Il existe donc un monde où Francis Poulenc aurait été un grand compositeur de jeux vidéo japonais.
Max Dozone, maxi classique à retrouver sur francemusique.fr. Allez, c'est trop beau, Poulenc, on continue.
Fidèle au poste, Xavier Nataf, Radio Judaïka.
Oh.
Bantumi, Ray Lugo et The Bagaloo Destroyers. Ainsi se termine notre émission du jour. Je vous donne rendez-vous demain à 14h pour un nouveau début d'après-midi consacré à la culture et à la pop culture. Allez, vous avez rendez-vous avec la suite des programmes de Radio Judaïka.
Goodbye.